À la suite de cette louange, il y a un verset qui fait vraiment transition avec le message qui va rester dans, dans la même ligne, qui est ce verset de Jean 1, 14. « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est avec ce verset de l'évangile de Jean que j'aimerais aborder ce matin le dernier volet des cinq soli de la Réforme. Il est en quelque sorte à la fois le point d'orgue et la conclusion logique de ces pensées des réformateurs. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et c'est ce qu'on a chanté ce matin, à Dieu seul la gloire. Vous avez remarqué, depuis plusieurs années maintenant, les anciens de l'Église ont insisté et insistent sur l'importance des bases solides de la foi, d'avoir acquis ces bases, de les cultiver jour après jour pour arriver au bout du compte à véritablement connaître Dieu et donc à recevoir en retour les bénédictions, les promesses, la vie que Dieu donne. Les réformateurs, cinq siècles en arrière, ne s'étaient pas trompés non plus, ni les pasteurs réunis il y a quelques années, en 96, à Cambridge, aux USA, qui s'étaient de la même façon interrogés, inquiétés, au sujet des dérives de beaucoup d'églises, notamment des églises évangéliques, dérive souvent due à l'éloignement de plus en plus palpable des bases bibliques, manque de fondements clairs, solides, de la marginalisation souvent systématique de l'étude de la parole de Dieu dans les églises, voire de la prière communautaire. Et d'une façon très, très dure, mais probablement assez juste, la déclaration de Cambridge qui clôturait ce séminaire, réfléchissant à cette cinquième formule de Soli Deo Gloria, constatait avec inquiétude la quasi-disparition, il y a 25-30 ans dans les milieux évangéliques, d'une adoration réellement centrée sur Dieu. Voici un extrait de ce qu'elle disait. Les paroles sont dures, vous allez voir. « Partout où, dans l'Église, l'autorité biblique a été perdue, le Christ a été déplacé, l'Évangile a été biaisé, la foi a été pervertie, cela a toujours été pour une seule raison, nos intérêts propres ont remplacé ceux de Dieu. » Alors, cette phrase, il faut la mettre dans sa tête plusieurs fois. Nos intérêts propres ont remplacé ceux de Dieu. Et nous appliquons nos méthodes à l'accomplissement de son œuvre. Au lieu de laisser Dieu accomplir son œuvre en nous par ses méthodes à lui. Que Dieu ne soit plus au centre de la vie de l'Église aujourd'hui est un fait répandu et lamentable, disait cette conclusion. C'est cette perte qui nous permet de transformer l'adoration trop souvent en divertissement, la prédication de l'Évangile en marketing, la foi en une technique où l'éthique nous est devenue agréable à nous-mêmes simplement, et où la fidélité est venue quête de succès. En conséquence, Dieu, le Christ et la Bible ont perdu une grande partie de leur valeur à nos yeux et ne pèsent plus beaucoup pour nous. C'est un constat qui est terrible, qui est dur. Il y a plus de 40 ans en arrière, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, le théologien Alfred Tozer écrivait déjà « L'Église a abandonné la notion élevée de Dieu qu'elle avait autrefois. » Pour lui substituer un concept ignoble, indigne d'homme, capable de réflexion et d'adoration. Et elle a fait cela, non pas de façon délibérée, mais peu à peu, sans s'en rendre compte. Et son inconscience rend sa situation d'autant plus tragique. La situation s'est-elle améliorée depuis 40 ans ou depuis 20 ans ? Eh bien, il semble bien que non, souvent. Sans être pessimiste du tout, hein, mais notre obsession grandissante à tous, à notre monde, à l'ambiance dans laquelle nous vivons, pour la facilité, la légèreté, les banalités insignifiantes des médias, ou les raccourcis où on va se focaliser sur un nom, sur une idée, tous dans un même moule. Notre addiction pour les divertissements égocentriques. La mondanité de notre culture n'ont, semble-t-il, bien souvent fait qu'aggraver la situation. Et le plus terrible dans tout cela, c'est que la plupart des chrétiens ne se rendent pas du tout compte de l'importance de cet enjeu. Alors je me suis interrogé sur mon Église, sur notre Église. Face à une telle affirmation, la gloire de Dieu seul, à la gloire de Dieu seul, rendons gloire à Dieu seul. Est-ce que nous contemplons encore aujourd'hui dans l'Église la gloire de Dieu ? Est-ce que nous la contemplons ? Alors il y avait des belles images ce matin, vous avez vu, à contempler aussi, et qui rappelaient la gloire de Dieu. Est-ce que nous contemplons la gloire de Dieu comme nous a dit le verset que nous avons lu ? Bien plus encore, est-ce que nous en sommes d'abord convaincus de cette gloire de Dieu, de ce Dieu qui est tellement glorieux ? Est-ce qu'on a cette gloire de Dieu au-dedans de nous, imprégnée ? C'est-à-dire, est-ce que nous vivons cette gloire de Dieu chaque jour ? On pourrait dire, est-ce que nous la consommons sans modération, cette gloire de Dieu ? Est-ce qu'en tant qu'individu croyant, est-ce qu'en tant qu'église locale, ici, faisant partie de l'épouse du Christ, la gloire de Dieu seule est la chose primordiale, l'enjeu le plus important de ma vie, de notre vie, de ma façon de fonctionner, de notre façon de fonctionner. Glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Lorsque j'étais petit, je me souviens que papa disait toujours avant le repas, nous allons rendre grâce. Quand on a 5 ans, ça m'interrogeait. Je ne comprenais pas pourquoi, de ce que j'avais compris, si Dieu nous avait donné sa grâce, on était obligé de lui rendre. Et je me souviens avoir dit à mon papa, une fois, ce n'était pas juste, donner ses données, reprendre ses volets. Alors j'ai grandi depuis, pour comprendre la grâce de Dieu. Mais l'idée que Dieu recherche sa propre gloire est une affirmation parfois mal comprise, qui mérite par conséquent d'y réfléchir quelque peu. La question peut se poser, est-ce que cette recherche n'est pas égoïste ? Pour finir. C'est un peu le même débat qu'on a eu l'autre jour à l'étude biblique avec le mot jaloux, ce Dieu jaloux, ce Dieu maintenant qui veut qu'on lui rende gloire. Ce Dieu jaloux, si on met jaloux dans notre idée à nous, c'est clair que ça ne va pas jouer du tout. Mais on a dû apprendre à comprendre ce que derrière cet a priori il y avait. Et les a priori derrière ces questions ont bien souvent dans nos milieux frôlé le sacrilège. Tabou qu'elles étaient, en ce qu'on imaginait qu'elle rabaissait Dieu au niveau de notre humanité pécheresse et égocentrique. Mais non, à la gloire de Dieu seul signifie en résumé qu'il n'y a que Dieu qui soit sacré, qui soit divin, qui soit absolu et à qui on doit rendre gloire. Il désire notre louange car il est digne d'être loué. Il demande à être exalté, à être glorifié à cause de sa grandeur, de sa bonté. Bref, il veut être reconnu et apprécié pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Glorifier Dieu pour ce qu'il est. Cela nous conduit à nous pencher sur la notion biblique de la gloire de Dieu pour mieux la cerner. La gloire de Dieu est le rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu, l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Et c'est vrai que quand vous regardez des icônes, les peintures, les icônes, souvent Dieu est représenté avec cette auréole autour de lui, cette aura qui fait un petit peu un cercle de lumière autour de lui. Il rayonne de gloire, littéralement. Il rayonne de gloire. Il est pris dans un rayon de gloire. La Bible compare cette gloire à un feu dévorant qui éblouit, qui aveugle, qui inspire la crainte, qui inspire le respect, mais qui inspire surtout l'adoration. Et la Bible nous dit que nul ne peut voir la gloire de Dieu tout entière et vivre. C'est ce qui était donné aux anciens dans l'Ancien Testament. La Bible nous rapporte que justement ces patriarches qui ont eu une rencontre forte avec le Seigneur ont perçu quelque chose de cette gloire. Par exemple, Moïse devant le buisson ardent ou devant le tabernacle. Je suis allé voir dernièrement le film Exodus. Et j'ai été interpellé par une option originale prise par le réalisateur du film pour représenter Dieu. Je ne vais pas vous la dévoiler du tout, ça serait trop bête. Mais en y réfléchissant, on a discuté deux petits mots en sortant, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, on était beaucoup plus enclin à chercher comment se représenter Dieu qu'à chercher la gloire de Dieu. Et ce qui n'était pas important, c'est à quoi ressemblait Dieu, mais c'est de le trouver au travers de sa gloire. Et ça m'a fait accepter tout à fait la façon dont le réalisateur avait pris cette option. Chercher la gloire de Dieu, découvrir Dieu dans sa gloire. Cette gloire divine, on l'a vu ce matin, révélée dans toute sa création et particulièrement dans l'homme formé à l'image de Dieu. Dieu manifeste sa gloire de différentes façons. Il la manifeste au moyen de ses jugements, mais elle éclate surtout dans la rédemption offerte au monde entier, dans ce que nous avons partagé tout à l'heure à la scène, dans ce sacrifice. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste pour nous, ce sacrifice du Christ à la croix. C'est pour ça qu'on nous invite à l'annoncer jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que son retour soit là, que cette gloire soit visible par le monde entier. En Christ, nous avons pu la contempler, cette gloire, nous pouvons la contempler. Et en Christ, nous pouvons la contempler sans être consumés par elle, comme l'ont été les anciens. Nous participons à la gloire de Dieu et nous voyons la gloire de Dieu et nous sommes au contraire en vie. Elle nous amène la vie par le sacrifice du Christ. Jean 1,14, je relis ce verset. « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au travers de la scène, c'est ce que nous avons vu aussi. Jésus a montré sa gloire par ses miracles, par tous les miracles qu'il a faits sur la terre, toutes les fois en restant très humble et en disant aux hommes, « N'en parlez pas !» Simplement pour ne pas être suivi pour ses miracles, mais pour être suivi parce qu'il était la grâce de Dieu sur terre. Il l'a montré par sa sainteté parfaite au milieu de nous. Il l'a montré par son sacrifice à la croix, sacrifice d'obéissance. Il reviendra bientôt en Seigneur de gloire, dans l'éclat de toute sa majesté, pour juger et pour régner. Par conséquent, rendre gloire à Dieu, ou donner gloire à Dieu, c'est le louer, lui rendre honneur, exalter, célébrer ses perfections. Célébrer ses perfections. C'est de là que vient le mot doxologie, un mot compliqué. Célébrer ses perfections, doxologie, formule de prière qui rend gloire à Dieu. Lorsque vous rendez gloire à Dieu en priant, c'est une doxologie. Voilà, continuez à rendre gloire à Dieu en priant. Glorifier Dieu, c'est donc lui rendre témoignage, être témoin devant les autres que Dieu est grand, que Dieu est digne de louange et de gloire. C'est le reconnaître d'abord comme le seul souverain, comme la source de tout bien. Et là, attention, rendre gloire à Dieu seul. Soli Deo Gloria. Rendre gloire à Dieu seul. Celui qui se glorifie lui-même commet une faute grave. Il vole à Dieu l'honneur qui lui est dû. À lui seul. Pensez-y. Ne rendre gloire à quelqu'un d'autre ou à Dieu, c'est voler à Dieu cet honneur qui lui revient. C'est priver Dieu de cet honneur qui lui revient. Mais pour autant, glorifier Dieu ne se limite pas, comme dit Hébreux 13, verset 15, à un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce n'est pas simplement chanter ses louanges, glorifier Dieu. Jésus se pose en modèle pour nous quand il dit au Père « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire » Jean 17, verset 4. Le but recherché par Dieu dans la glorification est que sa gloire soit manifestée par une relation bipartite, c'est-à-dire des deux parties, avec ses créatures. D'une part, il révèle sa gloire dans d'innombrables actes de générosité gratuite, et ça on peut le voir tous les jours, on le remercie. On le remercie parce qu'il, pour ce qu'il a fait pour nous, pour sa générosité. On le remercie pour les bienfaits qu'il nous donne. On le remercie pour la santé, on le remercie pour la vie. On le remercie pour ce pain qu'on peut partager, pour son sang. Toutes des choses qu'il a fait pour nous, des choses gratuites et généreuses. Et d'autre part, ses enfants, donc, vont lui répondre en lui donnant gloire pour toutes ses actions de grâce. D'un côté, toutes ses actions viennent de Dieu et montrent sa gloire, et de l'autre côté, cette gloire fait qu'on a envie de retourner toutes ces actions de grâce vers notre Dieu. Et troisièmement, encore, par une vie consacrée. Et on l'a écouté dimanche passé, consacrée par l'obéissance. On a vu dimanche passé qu'en fait, il n'y avait pas d'autre option. C'était obéir ou ne pas suivre Dieu. C'était pas obéir, entrer dans les pieds. C'était pas être obligé d'obéir, non. C'était être rempli de la gloire de Dieu, avoir envie d'obéir, être dans cette obéissance. Dieu n'oblige personne à obéir, mais en suivant Dieu, la seule option qu'on a, c'est de lui obéir, simplement. Et ça devient léger. Le fardeau est léger, le joug est facile. Une vie consacrée à l'obéissance, au service de l'autre, des autres, au témoignage, être disponible pour partager la grâce de Dieu. L'homme a été créé en vue de cette communion réciproque entre les chrétiens et le prochain. Communion réciproque dans l'amour, dans la vie de tous les jours. Et la rédemption du Christ la rend possible pour tous les pécheurs, cette communion. Dieu a du plaisir en révélant sa bonté à ceux qui veulent bien la recevoir. Ça réjouit Dieu quand quelqu'un veut bien recevoir sa bonté et recevoir la vie qu'il donne. Mais de l'autre côté aussi, l'homme trouve et ne peut trouver son plein épanouissement et son bonheur qu'en contemplant la gloire de Dieu, en lui adressant sa louange, en lui consacrant sa vie. Une relation double. Dieu donne et il nous donne tout. Et on est tellement heureux de tout recevoir qu'en retour, on a envie de le glorifier et de lui rendre gloire. Je ne sais pas si vous connaissez le petit catéchisme de Westminster. Qui connaît le petit catéchisme de Westminster? Ah, John en anglais, en tant que bon anglais... Américain, pardon. Excuse-moi du lapsus. Alors, c'est un vieux bouquin. Je vais vous donner une petite idée. Dans les années 1650, le Parlement anglais, le Parlement, hein, pas du tout les religieux, enfin, c'était peut-être un petit peu lié, mais le Parlement anglais a décidé de réfléchir ensemble, de se réunir et de demander la présence de Dieu. Déjà, ça, c'est déjà extraordinaire. Et de ce colloque, sont sorties différentes choses, le Grand Testament de Westminster et le Petit Testament de Westminster, qui a été édité plusieurs années plus tard, qui s'appelle « Catéchisme ou abrégé de toutes les vérités de la religion chrétienne ». Si vous avez l'occasion d'aller le voir, par exemple sur Internet, vous le trouvez, vous verrez comment c'est fait. Il y a 107 questions avec 107 réponses. C'est tout simple. Des questions toutes courtes et des réponses toutes courtes. Vous savez ce que c'est la première question du catéchisme de Westminster? Quel est le but principal de la vie de l'homme? John, tu sais la réponse? Oui? La réponse est, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est la première question et la première réponse. Un résumé parfait. J'aurais dû dire que ça ce matin. Nous comprenons alors pourquoi la théologie de la Réforme a tellement insisté sur ce principe, la gloire de Dieu seul, à la gloire de Dieu seul. et pour que nous avons besoin toujours de redécouvrir et de réaffirmer la gloire de Dieu seul. Nous vivons à la gloire de Dieu seul. Pour être capable de rendre à gloire à Dieu la gloire qui lui est due, il nous faut saisir quelque chose de l'origine, de l'étendue, du but de ses œuvres. Paul nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous lirez 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est compliqué comme ça, mais c'est tout simple quand on se met devant Dieu et qu'on désire le recevoir. Tout dans la création, tout dans la création a sa source en Dieu, est soutenu par son pouvoir renouvelant, et tout a pour but sa gloire. Nous lui devons notre existence. Nous sommes ses enfants. Nous lui devons notre bien-être de tous les jours, toutes ses bontés, ses bénédictions, et de même notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est le glorifier. Le salut est en Dieu. C'est lui qui l'a conçu, qui l'a réalisé, c'est lui qui l'amènera à sa perfection, à sa finalité. Son accomplissement à ce salut, il est par Dieu, au travers de l'œuvre du Christ à la croix. Sa réalisation quotidienne en nous est aussi par Dieu, grâce à l'action de son Esprit en nous. Et tout cela est pour sa gloire. Les quatre soli parties qu'on a étudiées précédemment, l'Écriture seule, l'œuvre de Christ seule, la grâce de Dieu seule, la foi en Christ seule, tout cela vient de Dieu, est réalisé par lui et conduit à un seul aboutissement, à Dieu seul soit la gloire. Enfin, le jugement de Dieu, le jugement est en Dieu. Il sera exercé par celui à qui Dieu a délégué l'accomplissement de toutes ses œuvres, à savoir son Fils Jésus-Christ. La déclaration de Cambridge se concluait dans ces termes. Dieu n'existe pas pour satisfaire nos ambitions humaines, nos convoitises, notre appétit de consommation, ni même nos intérêts spirituels, personnels. Nous devons centrer notre adoration sur Dieu lui-même plutôt que sur la satisfaction de nos besoins personnels. Dieu reste souverain dans notre adoration et non pas nous. Nos soucis devraient concerner le royaume de Dieu et non pas notre propre sphère, notre popularité ou notre succès personnel. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Nos soucis devraient concerner le royaume de Dieu, à la gloire de Dieu. J'aimerais vous laisser pour terminer trois courts textes. Le premier nous parle de la gloire de Dieu. Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et puis deux autres versets qui sont deux fois des textes tout à fait pratiques et utiles pour nous, pour tous les jours. Un texte qui est pour l'Église, pour toute l'Église. On va dire pour l'Église ici, mais aussi pour toute l'Église. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Vous savez la fin du verset? Pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous pour la gloire de Dieu. Ça change la façon de voir son voisin. J'accueille mon voisin, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et un texte qui est pour chacun de nous, vraiment dans toutes nos situations. Soit donc que vous mangiez, personne qui mange, bon. Soit donc que vous buviez, non plus. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à juste une petite minute de réflexion. Seigneur, nous voulons te dire notre bonheur d'avoir un Dieu si grand, et notre bonheur de recevoir toutes ces bénédictions de toi, jour après jour, tout ce que tu nous as donné. Seigneur, en retour, nous voulons, avec un cœur rempli de joie, t'adresser notre louange, notre adoration, et vivre jour après jour, avec ton aide, dans ta gloire et pour ta gloire. Sois béni, Père. Amen.
Merci à chaque participant de ce culte de ce matin. C'est vrai que ce culte soit vraiment aussi à la gloire de Dieu. Je partage avec vous les annonces. Concernant le programme de la semaine, demain soir, la commission de travaux se rencontre à 19h30. Mardi, réunion de prière. Venons aussi à la réunion de prière pour rendre gloire à Dieu. C'est aussi un des moyens que nous avons de lui rendre toute la gloire qui lui est due. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, thé café à 9h30 et puis le culte à 10h30 ici. Je vous rappelle l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 4 février. C'est donc juste la semaine d'après, dans une dizaine de jours. Je pense à 20h. Ouais. Des nouvelles de Guylaine. Guylaine est bien rentrée de la maison de convalescence. Elle va mieux. Le moral est meilleur aussi. Mais continuons aussi de prier pour eux, pour elle, pour Jacques aussi, son mari. Guylaine va aussi repartir vendredi pour de nouveaux examens. Comme quoi, c'est pas simple. Elle remercie l'Église pour les prières dont elle est consciente, dont elle est l'objet. Elle me disait hier qu'elle ressentait qu'elle se sent portée par nos prières. Donc c'est important de le savoir, de le partager, de continuer aussi de penser à elle ainsi qu'à tous ceux qui souffrent dans l'Église, dans l'Assemblée. Continuons de penser à Audrey. Pensons aussi toujours à Eric. C'est pas facile, les suites de l'opération, le temps que ça prend pour se remettre, que les choses se remettent en place. Continuons vraiment à le soutenir, ainsi que son épouse. Cette semaine, on vous invite à prier pour un petit pays, l'Érythrée. Est-ce que tout le monde sait où est située l'Érythrée? Ouais, à droite. Donc, à droite de l'Afrique, entre l'Égypte et la Somalie. Et puis, dans l'atelier dans lequel je travaille, on accueille deux travailleurs qui viennent de l'Érythrée. C'est un pays dont on parle peu, mais un pays dans lequel la vie n'est pas forcément toujours facile, surtout la vie pour les chrétiens. S'il n'y a pas d'autres annonces à partager, je vous invite à vous lever. Et je partage avec vous encore trois versets du psaume 119. « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Mais moi, je vous invite à passer une semaine bénie au service de notre Seigneur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.